Ce matin, je voudrais insister sur cet aspect que nous faisons partie de la famille de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez, dans la parole, je vous prends des exemples. Par exemple, Josué, il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alors, on comprend bien que ce n'est pas sa maison qui va servir l'Éternel. Ce n'est pas son habitation. C'est sa famille. Lydie, qui craignait Dieu, elle fut baptisée avec sa maison. Et littéralement, il a dit ça. Bien sûr, c'est pas encore la maison. Vous imaginez, baptiser une maison, ça serait compliqué. Et puis, ça servira à rien, surtout. Parce que c'est la famille. Quand le geôlier de Philippe, il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, toi et ta maison, et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Nous sommes de la maison, gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Et si on peut opposer quelque chose à cette réalité, comme avec la maison de prière, on a pu opposer la caverne de voleurs, à la maison de Dieu, on peut opposer la maison de servitude. Vous savez, quand Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, la première chose qu'il dit, c'est pas un commandement. Vous savez ce qu'il dit? On le trouve dans Exode chapitre 20. Là, vous pouvez lire tout ce chapitre. Vous verrez les 10 commandements qui sont bien connus. Mais il y a ce verset qui est là, que Dieu a voulu qu'il s'impose sur les cœurs avant de pouvoir comprendre ce qu'elle était la volonté de Dieu. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Qu'est-ce que c'est la maison de servitude? C'est l'esclavage. Bon, pour les Israélites, ils n'avaient pas besoin d'explication. Ils l'avaient connu. Ils avaient connu ces temps de douleur, ils avaient connu les coups de fouet, ils avaient connu la méchanceté des Égyptiens, ils avaient connu la méchanceté du roi, et ils savaient ce que ça représentait. Est-ce que nous savons ce que représente la maison de servitude? Vous savez que dans le livre du Deutéronome, quelques livres plus loin que de l'Exode, Dieu il fait encore cette recommandation, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier. Il y a une recommandation qui est faite, de ne pas oublier d'où c'est que le Seigneur Jésus nous a tirés. Il y a une recommandation qui est faite, de ne pas oublier de ces ténèbres dans lesquelles nous étions et que le Seigneur nous a pris, nous a amenés dans le royaume, de fils de son amour. Quelle grâce que de pouvoir maintenant marcher à la lumière du Seigneur, mais il faut être conscient. Souvent, on oublie ce qui s'est passé. On oublie, on vit des expériences fabuleuses avec le Seigneur. Des années en arrière, on a vécu sûrement des belles choses. Et puis, on oublie avec le temps. Et notre foi, quand on oublie, vous savez ce qui se passe? Ça s'en va, ça diminue, ça fait exactement ça. Tandis que si on s'entretient en disant, Seigneur, oui, je me souviens d'où tu m'as tiré. Et maintenant, je marche comme un enfant du Seigneur. J'étais dans la maison de servitude, maintenant je suis dans la maison de Dieu. Oh, moi je l'ai décrit de cette manière, la maison de servitude, c'est oui, quand je suis esclave, esclave du péché. Quand il y a des choses qui sont plus fortes que moi, qui me dirigent. Quand c'est mon caractère. Ah Seigneur, il est merveilleux, il me donne une vie nouvelle. Par contre, mon caractère, bon, ben, ça c'est une autre histoire. De toute façon, il est comme ça et ça changera jamais. Vous avez jamais entendu des personnes qui disaient ça? Est-ce que c'est ce que nous dit la parole? La Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». Ça veut dire que, quel que soit notre caractère, on a besoin de transformation. Rien qu'avec ce verset. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. » On a tous des progrès à faire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. La maîtrise de soi. Oh là 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 là. Notre caractère doit être modelé à l'image du Seigneur. Et quand je décide que mon caractère, c'est ce qui dirige ma vie, quand je choisis que mes réactions dirigent ma vie, quand je choisis que c'est les blessures du passé qui n'ont pas été guéries, qui rejaillissent sur mon comportement, je suis dans la maison de servitude. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que même si on est chrétien, on peut être encore dans la maison de servitude? Je crois que malheureusement, il y a certains moments donnés où on a des bas, comme on appelle, il y a des hauts, il y a des moments où on est bas, où on est charnel, où on agit selon notre chair, selon nos sentiments, et on revient soi-même dans la maison de servitude. C'est pas le Seigneur qui nous y place. Lui, il voudrait tellement qu'on garde notre main dans sa main, mais à un moment donné, c'est nous qui lâchons sa main. On réagit selon la chair. Et si on est sage, à un moment donné, on se repent. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis ton enfant. Je veux réaliser que je veux plus être dans la maison de servitude, mais je veux venir à nouveau dans cet endroit-là. Quand on voit les personnes qui vivent selon les pensées de ce monde, avec l'égoïsme, quand on voit l'indifférence, quand on voit les gens qui vivent pour l'apparence, qui vivent seulement pour le plaisir. Et vous savez que dans la parole, les chrétiens sont mis en garde par rapport au plaisir. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Des chrétiens. C'est pas seulement les inconvertis. Les inconvertis, c'est normal. Ils sont dans l'ignorance. Mais les chrétiens qui aiment le plaisir plus que Dieu, ils seront dans la maison de servitude. Et ils ont besoin, nous avons besoin de revenir au Seigneur. Quand on voit les personnes qui sont continuellement dans l'inquiétude, dans l'angoisse, la peur, le stress, la pression des circonstances, on a besoin de venir dans cette réalité de la maison de Dieu. Vous croyez que dans la maison de Dieu, il n'y a pas justement cette abondance de paix, de calme, de douceur et de repos. Comme ça a été dit, comme un poussin qui est sous les ailes de la poule. Voilà l'image que le Seigneur nous donne pour sa présence, la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu vos informations, cette nouvelle, quelque chose d'horrible, qui montre vraiment la mentalité de ce monde qui est en train de se corrompre. Cet homme qui a tapé son enfant parce qu'il pleurait pendant que sa maman est allée chercher, en plus c'était des cigarettes, mais elle est sortie et l'homme qui jouait à la console, il en avait marre que l'enfant pleurait, il a tapé, il a tué. Quelque chose d'horrible. Vous imaginez combien les gens peuvent être égoïstes pour un jeu vidéo, on va tuer son enfant. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais ça donne quand même une image de ce qu'il y a au fond des cœurs. Et par contre, nous croyons que dans la maison de Dieu, il y a une différence à avoir. Nous croyons que, oui, la maison de servitude, c'est le contraire de la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, nous avons une condition particulière. C'est ce que je voudrais partager maintenant. Je ne veux pas rester sur le négatif. Je veux vous amener à cette réalité de quelle est notre position en Christ. Vous savez que le livre des Éphésiens nous parle dans les premiers chapitres de la position que nous avons en Christ. Et au chapitre 4, on peut aller. Il y a ce verset qui nous montre toutes les choses qui nous rassemblent. On est autour de nous, on voit beaucoup de familles recomposées. C'est de plus en plus ce qui se passe dans les familles, malheureusement. Mais vous savez que Dieu, lui, est spécialiste pour prendre des personnes de toutes sortes d'endroits différents et les rassembler en un seul même endroit. Et j'essaye d'imaginer le spectacle que ça sera au ciel. Quand des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation seront là en train de chanter d'une même voix, d'un même cœur, gloire au Seigneur, à l'agneau de Dieu soit la gloire. Bon, je sais pas comment ça sera, je sais que ça sera merveilleux, les anges y joueront la musique, mais j'espère que je pourrai jouer un petit peu aussi. Mais enfin, ça, c'est moi, je verrai ça. Marine aussi, on sera tous les deux. En tout cas, peu importe, mais on sera tous ensemble pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Le Seigneur, il est spécialiste à prendre des gens de toute origine différente, de toute langue, de tout même niveau social, de caractères différents. Est-ce qu'on a tous des caractères différents? Moi, je bénis le Seigneur qu'on ait des caractères différents. Ça serait tellement ennuyeux sinon. Si tout le monde avait mon caractère. Oh là là, ça serait tellement ennuyeux. Mais heureusement, on est là pour s'apporter. C'est des grâces que le Seigneur nous donne. Et dans la famille de Dieu, il y a cette grâce de pouvoir être unis autour de certaines choses qui nous rassemblent. Dans Éphésiens 4, on peut lire au verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, et en tous. Amen. La suite, on le verra sûrement à une autre étape où le Seigneur nous donne des choses différentes à exprimer. Mais là, je voudrais parler de ces choses qui nous rassemblent. Un seul Dieu est Père de tous. Comment Dieu devient notre Père? Quand on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur. Quand on accepte que le seul Seigneur qui a été donné sur la croix pour le péché de l'humanité, quand on accepte que ce Seigneur-là devienne notre Seigneur à nous, celui qui nous sauve de notre péché, quand on accepte qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul, c'est ce que nous dit la parole, mais que par la foi en Jésus-Christ, on peut être justifié. Alors ça nous rassemble. Et peu importe le prénom que l'on ait, peu importe le nom de famille que l'on ait, si on a cru un jour dans cette réalité-là, eh ben, il y a une unité de l'esprit qui se passe. Dès l'instant où on est plongé dans cette réalité, eh ben, on est amené dans la famille de Dieu. Et de manière spirituelle, c'est quelque chose d'incroyable de savoir que sur toute la terre, dans toutes les villes, même de France ou d'ailleurs, on a des frères et sœurs. C'est merveilleux, ça. Quand vous allez dans une ville que vous connaissez pas, vous allez dans l'église, et puis vous trouvez là des frères et des sœurs qui vous accueillent avec un grand sourire, qui sont là prêts à vous aider. À Toulouse en particulier, on avait souvent des étudiants qui arrivaient. Tous les ans, il y a des étudiants qui arrivaient. Et c'était merveilleux de pouvoir arriver dans un pays comme ça, où étranger, il y avait des gens qui venaient d'Afrique, toutes sortes de pays, et puis qui étaient accueillis, tout simplement. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Il y a un mot en particulier dans la Bible qui nous montre cette position, cette condition que nous avons en Christ. C'est le mot « ensemble ». Vous avez vu tous les versets qui parlent de ce mot « ensemble ». Je vous prends cet exemple. On est dans Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités. Comment ? Ensemble. C'est pas comment ? Non, ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour montrer que Dieu est pour, il n'est pas pour cette foi qui est totalement individuelle. Je me contente de croire en Dieu et c'est tout. Je ne veux pas avoir de contact avec d'autres personnes. Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Et malheureusement, on rencontre de plus en plus de personnes qui ne vivent que de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'écouter des messages sur Internet. Mais des personnes qui ne vivent que des messages sur Internet et qui sont privées de la communion fraternelle. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est ceux qui sont ressuscités ensemble, ceux qui sont assis ensemble dans les lieux célestes, ceux qui ont part à cette vie de grâce et de bénédiction ensemble. L'Église, alors vous connaissez ces versets, c'est ceux qui demeurent ensemble. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez ce qu'il sait, il y a cette onction particulière, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, c'est là que l'Éternel envoie quoi ? La bénédiction. C'est là, c'est pas ailleurs, c'est pas devant mon ordinateur en train d'écouter un message. Bien sûr que le Seigneur peut me bénir à travers un message, mais combien je ne voudrais jamais remplacer cette communion fraternelle. Parce que l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est demeurer ensemble. Et c'est là que l'on voit la bénédiction. L'Église, c'est être ensemble dans la prière. Il est dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu et le résultat, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à être les témoins du Seigneur. Est-ce que vous voulez pas vivre ce genre de choses ? Être rempli du Saint-Esprit ? Oh, mais je l'ai été il y a 25 ans, il y a 30 ans en arrière, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur peut pas nous remplir tout à nouveau ? Acte 2, ils sont remplis du Saint-Esprit. Acte 4, ils prient. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ils prêchent avec assurance. Vous avez vu cette façon de réagir ? Acte 4, vers 24, il est dit, lorsqu'ils eurent entendu donc le rapport de Pierre et Jean qui ont été un petit peu malmenés par les anciens, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, donne-nous de prêcher avec assurance. Mais pourquoi ils ont été malmenés par les pharisiens et les anciens du peuple ? Parce qu'ils ont prêché avec assurance. Et pourtant, quand ils arrivent tous ensemble en train de raconter cela, et le sujet de prière qui découle de cela, face aux menaces, face à la persécution qui est là, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, oh, permet que ces personnes soient frappées par la foudre. Il avait déjà fait ce genre de prière. Mais c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous de prêcher avec encore plus d'assurance dans le nom de Jésus. Et par la suite, ben, ils se sont encore confrontés à ces personnes. Ils ont même reçu des coups de fouet. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont ressortis de là. Ils étaient pas tout tristes, tout déprimés. Oh Seigneur, par où tu nous as fait passer encore ? Ils étaient remplis de joie. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal. C'est c'est possible que quand on est rempli du Saint-Esprit. Quand on a compris que dans l'épreuve, même la plus difficile, le Seigneur, il est au milieu de nous, le Seigneur, il est présent avec nous. Mais ça, c'est normal. Ça se passe quand des gens se réunissent ensemble, ils élèvent leur voix ensemble, ils affrontent la menace ensemble. Nous sommes face à toutes sortes de menaces autour de nous. L'ennemi est en train de se déchaîner pour briser les familles. L'ennemi est en train de se déchaîner dans l'église, je parle, hein. L'ennemi est en train de se déchaîner. Il le fait déjà dans le monde, mais il voudrait tellement le faire dans l'église. Et l'église a ce défi d'être cette maison de prière qui, ensemble, élève la voix et fait face. Vous savez, j'entendais justement dans une prédication cette anecdote. Un pilote d'avion, il est en train de piloter son avion dans l'air comme ça. Et puis, à un moment donné, il s'est aperçu dans ses pieds qu'il y avait un rat qui était là, qui faufilait. Et le rat, il était en train de grignoter. Il commençait à grignoter les câbles électriques. Et il savait qu'à un moment donné, il pouvait perdre totalement les commandes de l'avion. Et puis là, il s'est retrouvé devant deux options. Soit il essayait de se poser en urgence, soit lui, il a choisi de faire autre chose parce qu'il s'est dit, si je me pose en urgence, ça va être trop tard. J'aurai pas le temps d'y arriver. Et lui, il a dit, je vais monter plus haut encore. Et il a emmené l'avion, il a élevé l'avion, haute altitude. Et ce qui s'est passé, c'est que le rat, lui, il n'était pas équipé avec le masque et tout ce que vous voulez. Donc, il est mort de ça. Et j'ai dit, mais c'est une image tellement bonne de ce que nous devons faire. Souvent, il y a des soucis, il y a des rats qui se profilent. C'est pas des personnes, hein, c'est des problèmes dont je parle. Les rats qui sont là, et nous, on veut éradiquer le problème en revenant dans les choses terrestres, redescendant sur terre. Alors que la solution, c'est pas de redescendre sur terre, mais c'est de s'élever dans la présence de Dieu. Ensemble, s'élever. Ensemble, faire face et dire, Seigneur, tu vois le rat, tu vois les menaces, Seigneur. Mais donne-nous d'avoir encore plus d'assurance. Nous croyons que la solution, elle se trouve en toi. Et nous croyons que si nous pouvons réussir quoi que ce soit, c'est parce que nous allons rester ensemble. Dans Actes 15, verset 25, il y a tout un contexte qui est là, mais je voudrais juste retirer ce verset. Il est dit qu'après avoir été réunis tous ensemble, nous avons jugé à propos de choisir des délégués et de vous les envoyer avec notre bien-aimé Paul et Barnabas, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je pensais à cette réalité que c'est ensemble que l'on peut, on peut envoyer des délégués. Alors moi, je vais employer un autre mot, des missionnaires. Ensemble, on peut le faire. Vous savez combien on a besoin d'envoyer des personnes. Qui aimerait demain matin partir au Burkina Faso? Qui est volontaire? Bon, c'est bien. Après, est-ce que vous allez le faire vraiment? Ça, c'est autre chose. Mais qui aimerait le faire? Ça ne se bouscule pas au portillon, comme on dit. Hein, parce qu'il y a du danger. Parce qu'il y a l'insécurité qui est là. Et puis, comment? Ici aussi, il y en a. Et c'est vrai. Mais là-bas, c'est encore plus particulier. Et justement, je lisais la lettre de nouvelles de l'action missionnaire au Burkina Faso. Vous savez qu'ils demandent la prière. Il y a eu cet attentat qui a eu lieu. Il y a eu des otages qui ont été pris. C'est un couple, un médecin de 82 ans et son épouse 84 ans. Ça faisait 44 ans qu'ils étaient dans une ville. Et ils ont construit une clinique. Toute la population les appréciait. Et ils ont été kidnappés. Et le frère Aguilar, il demande la prière. Et justement, donc, croit que le Seigneur, il est puissant pour agir. Mais combien ont béni le Seigneur pour les personnes qui sont envoyées? Vous n'êtes pas d'accord? Qu'il y ait des hommes et des femmes qui répondent à l'appel de Dieu d'aller jusque dans ces extrémités de la terre. Au Congo-Brazzaville, il y a des personnes qui sont là pour enseigner à l'Institut biblique. Et les dons que l'on donne au travers de l'action missionnaire, ça sert aussi à former des pasteurs pour que l'évangile se propage dans tous ces pays-là où nous-mêmes, on ne peut pas aller. Bien sûr que moi, si vous me donniez la possibilité, j'irais parcourir toute la terre. Parce que c'est tellement merveilleux de découvrir les églises, les personnes, etc. Enrichissant. Mais c'est pas ce que le Seigneur me demande de faire. Il y a ce que Dieu nous demande de faire, et il y a ce qu'on aimerait faire. Comprenez? Et quand il y a des hommes qui sont appelés de Dieu pour faire cela, mais nous on veut ensemble se réunir et les envoyer, et les bénir au travers de l'argent, bien sûr, parce que ça coûte de l'argent. Vous aurez la possibilité de lire ces choses-là, si vous le voulez. Mais voilà toutes les choses que l'on peut faire ensemble. Envoyer des missionnaires, prier pour les missionnaires, tout ce qu'on peut faire ensemble. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, il est dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. » avec eux sur des nuées, avec ceux qui sont morts et qui vont ressusciter. Nous serons tous ensemble. C'est merveilleux de savoir que c'est pas, ça ne sera pas un après l'autre, mais tous ensemble. D'un même élan, nous serons enlevés et ramenés auprès du Seigneur. Ça, c'est la famille de Dieu. Et je pourrais développer des centaines de versets qui parlent de ce qui se passe ensemble. Maintenant, je voudrais aller plus loin, plus en profondeur. Il y a une condition que nous avons, c'est que nous sommes enfants, nous sommes gens de la maison de Dieu, nous sommes enfants du Seigneur. Mais voilà, cela implique que nous devons agir en conséquence. Je prends cet exemple. Si je mettais un t-shirt où je marquais « membre de la famille de François Hollande » et que je m'abalade à Moissac avec une batte de baseball et je dégomme tous les rétroviseurs, je casse des vitres et puis je laisse la carte de visite du président. Qu'est-ce qui va se passer ? On va vite venir me voir. Pourquoi ? Parce que on attend de la famille du président de la République qu'il y ait une certaine façon de se comporter. Et pas la perfection, mais en tout cas qu'il y ait une certaine façon de se comporter. Et est-ce que c'est pas la même chose que Dieu demande envers nous ? Qu'est-ce que nous avons sur notre cœur ? On n'a pas de t-shirt avec marqué « membre de la famille de Dieu », mais qu'est-ce qu'il y a marqué sur notre cœur ? Il y a marqué « Voici des personnes qui portent mon nom », dit le Seigneur. Nous avons tous le nom du Seigneur. Nous avons tous dans notre cœur, le jour où nous avons accepté de nous repentir, le jour où nous avons accepté que le sang de Jésus lavait nos péchés, nous avons tous porté sur notre vie même la marque du Seigneur. Et tout ce que nous faisons contribue ou pas à bénir le nom du Seigneur, à sanctifier le nom du Seigneur, à étendre la renommée du Seigneur ou à discréditer ce travail. Vous avez vu des fois que ça peut arriver de nous tromper. Les gens viennent nous dire « Ah, mais t'es chrétien ?» Je croyais que les chrétiens, ils faisaient pas ci ou ils faisaient pas ça. Mais moi, j'aime bien ces remarques parce que ça veut dire qu'ils ont une attente forte par rapport aux chrétiens. Et nous devons avoir nous-mêmes cette attente forte. Nous devons avoir cette conduite. Et pour vous montrer que c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi moi-même, mais c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, il est dit explicitement cela. En concernant la maison de Dieu, oui, nous avons une condition merveilleuse, enfant du roi des rois. Nous avons accès à l'héritage céleste. Dès à présent, ici-bas, nous pouvons goûter à tous ces trésors, à la guérison divine, nous pouvons goûter à la vie de l'esprit, nous pouvons goûter à tout cela. Mais il y a aussi une contribution de notre part. 1 Timothée 3, verset 15, ou verset 14 même, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu ? Il y a une façon de se conduire. Et dans la maison de Dieu, c'est, encore une fois, c'est pas l'église, le bâtiment, mais c'est l'église, notre vie, chacune de nos vies. Comment est-ce qu'il faut qu'on se comporte ? Il y a une autre expression que le mot ensemble, qui parle de cette relation entre nous et qui nous engage beaucoup plus, qui est plus dans l'action. C'est l'expression les uns, les autres. Vous avez relevé le nombre de versets qui parlent des uns et des autres ? Il y en a toutes sortes. Je vais vous donner un petit listing et vous montrer que l'exigence du Seigneur, c'est pas commode. Mais par sa grâce, on peut vivre ces choses. Mais avant de faire cela, je vais vous partager ce verset encore. Galates chapitre 6, verset 10. Je pense que c'est quelque chose qui résume tout ce que nous devons faire. Galates 6, verset 10. « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Et le terme qui est employé, c'est littéralement les gens de la maison de la foi. Les gens de la famille de Dieu. Pratiquons le bien envers tous, donc ça veut dire même ceux du dehors, mais surtout envers les frères en la foi, envers ceux de la maison de Dieu. Maintenant, regardons. Alors, je vais vous donner les références, vous pouvez les noter, mais ne cherchez pas parce que ça prendrait beaucoup de temps. Regardez ce que le Seigneur nous demande de faire. Avec cette expression les uns les autres. Galates 5, 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il fait bien ceci ? Ah, celui-là, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place ? Ah, qu'est-ce que je voudrais prêcher à sa place ? Je le ferais beaucoup mieux que lui. C'est peut-être possible. Mais est-ce que c'est le fait dans un état d'envie, de jalousie ? Ou est-ce que c'est le Seigneur qui appelle? Vous voyez? Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne parlez point mal les uns des autres. Ça nous engage. Ne pas dire du mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. C'est la parole qu'il demande, hein? Afin que vous ne soyez pas jugés. Ne vous plaignez pas. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout passer, mais il faut le faire avec l'ordre et avec la discipline que le Seigneur a demandé. C'est-à-dire, si ton frère t'a blessé, ben, tu vas le voir et tu lui dis directement. C'est comme ça que ça marche dans la parole de Dieu. Lisez Matthieu 18, le Seigneur il explique les choses. S'il ne t'écoute pas, tu prends des anciens, tu demandes au pasteur, et ensemble vous allez essayer d'arranger les choses discrètement. Et si ça ne marche pas, ben là, on commence à avoir les étapes qui gravissent. Mais c'est comme ça qu'on procède. On a malheureusement la fâcheuse tendance, quand on voit quelqu'un qui fait du mal, ça peut arriver, on est tous faillibles, mais d'aller le dire aux voisins et aux cousins, mais pas à la personne. Et combien c'est tellement bénissant quand on agit selon la parole, parce que le Seigneur, il nous permet de vivre la réalité du pardon, de la grâce et de toutes ces choses. Ça, c'est les choses à ne pas faire les uns envers les autres, et c'est déjà pas mal. Mais il y a toutes celles que nous devons faire. Jésus a commencé la liste en disant « Le sel, c'est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous » Et il parle de nos vies qui amènent du sel sur la terre. Et la première de ces particularités, de ce comportement qui va amener une faveur particulière autour de nous, il a dit « Ayez du sel en vous-même, soyez en paix les uns avec les autres. » C'est ce que je viens de dire. S'il y a la paix qui est troublée par une situation, ça peut arriver, je la règle tout de suite. Et la grâce de Dieu permet que ça amène une faveur. Il y en a qui sont privés de sel à cause de la santé, ça arrive. Hein. Combien c'est difficile de se priver de sel. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un manque. Et combien notre société a besoin de ce sel, de la présence de Dieu dans le cœur des frères et des sœurs, de l'Église qui manifeste autour d'elle, la paix qui manifeste, l'amour qui manifeste, toutes ces choses. Le verset qui revient le plus avec les uns les autres, c'est « s'aimer les uns les autres ». Et vous savez, le Seigneur Jésus, il a dit que c'était ça la meilleure évangélisation possible. S'aimer les uns les autres, c'est ça qui va amener des âmes à lui. Nous, des fois, on est là, on réfléchit, alors pour... On entend des fois dans des pastorales ou dans des gens qui viennent, qui ont à cœur des projets grandioses. Voilà, on veut faire une grande campagne d'évangélisation. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura un concert avec un groupe qui est connu, il y aura un prédicateur évangéliste renommé, il y aura des distributions, des milliers d'autres qui vont être distribués. Bon, mais tout cela, est-ce que c'est mal? C'est pas mal. Mais est-ce que c'est ça qui va faire que les âmes vont se donner au Seigneur? C'est pas ça dans l'absolu. Parce que le Seigneur Jésus, il a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes chrétiens. Qu'ils vont être touchés, interpellés dans leur cœur. C'est à cet amour qui se manifestera dans l'Église, c'est à cet amour qui aura dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, que les gens vont être interpellés, vont dire, mais il y a quelque chose de différent ici. Alors bien sûr, dans cet amour-là, on peut le manifester au travers d'un chant, au travers de distribuer des prospectus, etc. Mais s'il n'y a pas l'amour, ben vous lisez 1 Corinthiens 13 et vous comprenez que ça sert strictement à rien. Si on n'a pas l'amour, on peut même donner sa vie en sacrifice, ça sert à rien. Mais avec l'amour, les petites choses que l'on fait, elles ont un grand impact dans les cœurs. Et si nous voulons voir des hommes et des femmes venir à Jésus, alors, frères et sœurs, peut-être s'il y en a un qu'on doit retenir, c'est bien celui-là. Aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Aimons-nous avec cet amour-là qui est totalement désintéressé, qui ne regarde pas à ce qu'on mérite. Si j'attendais que vous m'aimiez pour ce que je mérite, eh bien j'attendrais longtemps, parce que je ne mérite pas grand-chose. Mais si vous m'aimez parce que vous dites c'est un frère qui a été sauvé par le Seigneur comme moi, alors là je m'attends à recevoir un petit peu d'amour de votre part. Et je vais vous en donner aussi. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et à cet amour-là, je crois que les gens de cette ville et des alentours pourront être touchés particulièrement. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Les mêmes sentiments. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli. Est-ce que Christ vous a bien accueilli? Ça va ou ça? Bon, il y a certains points qui vont, mais d'autres ça va pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Christ, quand même. Le roi des rois qui nous accueille dans sa famille, à nous qui étons que des pécheurs souillés, couverts de boue, il nous a accueillis les bras ouverts, comme le père qui a accueilli son fils prodigue. Et est-ce que nous, on serait tellement au-dessus du lot qu'on ne va pas accueillir les gens qui viennent de l'extérieur et qui veulent s'accrocher au Seigneur? Oh, combien cette image, elle est forte. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Soyez capables de vous exhorter les uns les autres. Est-ce que ce n'est pas merveilleux quand on reçoit quelque chose du Seigneur avant que la prédication soit apportée, mais parce qu'un frère nous dit une parole qui nous encourage? Une sœur qui est là, qui nous dit, ou au travers du chant, celui qui apporte le chant, il donne une petite parole d'exhortation. Et ça nous fait du bien. Est-ce que c'est pas merveilleux de pouvoir s'exhorter les uns les autres? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. C'est ce qu'on pourra faire tout à l'heure. Dire que le Seigneur te bénisse. Je sais pas par quoi tu passes, mais si tu as besoin, je suis là. Je veux qu'on puisse prier ensemble. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Serviteurs. Et je voudrais vous dire que je suis le premier concerné. On appelle souvent ceux qui sont des pasteurs, on appelle les ministres du culte. Mais le mot ministre, ça veut dire serviteur. Alors ça ne veut pas dire je suis au service des uns et des autres. Ça veut dire que je suis au service de Dieu pour les uns et les autres. Pour chacun d'entre vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez m'appeler. Parce que je suis serviteur. Mais le Seigneur nous demande à chacun d'être serviteur les uns des autres. Portez les fardeaux. Il y en a des fardeaux? Qui n'a pas de fardeau ce matin? Qui m'explique? On a tous des fardeaux. Même moi. Peu importe ce que nous faisons pour le Seigneur, on a tous des fardeaux. Mais le Seigneur nous demande de les porter ensemble. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Porter les fardeaux, c'est accomplir tout ce que le Seigneur nous demande d'accomplir. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, toute douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour. Aïe, 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 se supporter. Serrer les dents et dire, bon, c'est pas grave, ça passe, Seigneur, bénis-le, bénis mon frère, bénis ma sœur. Il a dit telle parole, il a fait ceci ou cela, c'est pas grave. Je veux aller dans le sens de le bénir. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous savez, souvent on entend les gens qui prient, Seigneur, unis-nous, que ton église soit unie. Est-ce que c'est bien de prier pour ça? C'est bien de prier pour l'unité. Mais là, il est dit que c'est un effort continuel. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il y a un effort continuel à l'unité. Bien sûr, ça passe par la prière, mais ça passe par tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Et quand on fait cela, le Seigneur manifeste sa grâce. Il y en a plusieurs autres, mais je voudrais pas être trop long. Est-ce que vous êtes reconnaissant au Seigneur pour la condition dans laquelle vous êtes en étant gens de la maison de Dieu? Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes plus dans la maison de servitude. Mais il peut y avoir des moments de flash où on fait un aller-retour. Mais peu importe, si on demande pardon, le Seigneur nous ramène dans sa maison et nous pouvons vivre cette réalité. Maintenant, nous avons ce devoir d'avoir cette conduite qui honore le Seigneur, qui contribue à ce que la renommée de Dieu soit étendue dans cette ville et aux alentours, partout où le Seigneur nous place. Alors je voudrais qu'on puisse pendant quelques instants fermer les yeux. Profitons de ce temps pour laisser l'Esprit de Dieu déposer sur notre cœur ce dont nous avons besoin. Vous savez, l'ennemi, il est celui qui veut nous retenir dans la maison de servitude. Pourquoi? Parce que là, il peut accomplir tous les projets dévastateurs qu'il a sur nos vies. Quand on est dans la maison de servitude, quand on marche selon la chair, quand on laisse de côté la parole de Dieu et la prière, alors l'ennemi il déploie tous ses artifices pour nous piéger. Et il peut y avoir tellement de dégâts qui sont commis. Mais si on acceptait le Seigneur Jésus dans son cœur, si on a fait la paix avec Dieu, si on a compris que le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur Jésus-Christ à la croix. Si on comprend cette réalité, alors nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes ressuscités en Christ. Toutes ces choses qui nous piégeaient dans notre vie passée, elles n'ont plus autant d'impact dans notre nouvelle vie. Parce que le Seigneur veille. Parce que le Seigneur est bon. Parce que le Seigneur protège ses enfants. Si vous touchez à un de mes enfants, vous aurez affaire à moi. Et qu'est-ce que vous croyez que va faire le Seigneur si on touche à un de ses enfants? Parce que le Seigneur est plein de grâce. Le Seigneur est plein de puissance aussi, plein d'amour. Voilà notre condition, gens de la maison de Dieu. Le Seigneur nous invite à avoir cette conduite. Est-ce que j'ai failli à ma conduite? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et que je n'ai pas réglé? Mais choisissons de régler les choses. Seigneur, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je le règle. Et que ta grâce, ta faveur soit sur nous. C'est là quand on est réunis ensemble, quand il n'y a rien qui vient entacher la communion, quand on travaille, quand on s'efforce de conserver l'unité de l'esprit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Qui veut avoir la bénédiction ce matin? Ce matin, c'est possible de l'avoir. Ce matin, quelqu'un peut être guéri. Quelqu'un peut être relevé totalement. Une situation peut se débloquer parce que vous allez mettre votre foi dans la parole et dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix mais qui est ressuscité et qui est dans les lieux célestes en train de prier pour nous. Alors je vais prier le Seigneur maintenant. Éternel, je te bénis pour ta parole.